bl1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
CIBL 105 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Philippe, tu vas chercher les enfants à la garderie, là, j'ai mon cours de yoga.
Julie. Julie, on n'a pas d'enfants.
Il est 18h.
CIBL 105.
Bienvenue à Zin Tonic sur les ondes de CIBL 101.5 avec Hélène Buguin.
Je suis Hélène Buguin, l'animatrice de Zin Tonic. On est officiellement au mois d'avril et le printemps prend son temps. Ce soir, on reçoit Judith Lefebvre et Margot Jolay, directrice artistique de Byte Zine, le projet dont nous allons ce soir décortiquer les aboutants et les tenants. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Et donc, Byte Zine, j'essaie de le définir un peu, fait que je suis allée regarder des définitions en ligne. Ce qui en est ressorti, c'est une anthologie, c'est un périodique, c'est un espace pour les voix transféminines, pour des réflexions transféministes. Et donc, je vais commencer très simplement. Vous, dans vos mots, c'est quoi Byte Zine?
Byte Zine, c'est un zine à tous les 6 mois, donc semestriel, qui se centre sur les voix transféminines, donc femmes trans et personnes non-binaires qui sont affectées par la transmisogynie. Et puis, c'est un espace où... pour mettre de l'avant de la poésie, de la fiction, de l'art, des histoires et des idées.
Parfait. Puis, en fait, c'est parti d'où, en fait, cette impulsion de créer Byte Zine?
En fait, c'est super drôle. Je vais te laisser parler tantôt du processus de création au début. Mais en fait, à la base, c'est un projet de TRAPS, qui est un collectif transféministe ici à Montréal. Puis nous, ce qu'on cherchait à faire d'abord, en fait, c'était faire un zine. Le but à la base, c'était de faire un zine photocopié, broché, qu'on allait vendre pour financer notre fonds d'aide mutuelle. Donc, c'était vraiment ça l'objectif. Oui. On avait reçu un financement de Femmes Égalité des Genres Canada, 5 000 $, pour faire ce projet-là. On était censé en faire 3 copies, trois numéros, voilà. Puis finalement, il y a eu un appel de texte, etc. Puis le projet est comme tombé un peu...
Entre deux chaises.
C'est ça. Puis ouais. Là, à ce moment-là, c'est là que Margot a pris le relais. Là.
Avec Nana. Et puis, on s'est un peu donné le défi de comment en faire un projet créatif qui allait nous passionner. Alors, nous deux... On a fait toute une réflexion sur la direction artistique et puis c'était quoi les textes qu'on voulait sélectionner. Et puis ça a résulté en notre premier numéro avec la couverture de Folvelli. Et puis maintenant, on est 4 dans l'équipe, donc Nana, Judith, Gwen et moi, donc 2 anglophones et 2 francophones. Ça s'est, ça s'est donné de même.
Franco et demi, hein, Jolaine?
Franco et demi, bilingue. et puis, on vient de sortir notre deuxième... numéro, et c'était un processus tout aussi le fun, plaisant que le premier. On est déjà en train de penser à quoi va ressembler le troisième. Et puis, avec le deuxième, il y a eu la particularité qu'on a pensé à un thème, soit on n'était plus dans l'anthologie générale, mais bien on voulait ancrer ça dans l'actualité. Donc, on s'est dit, quoi mieux que de parler d'autonomie corporelle, alors que l'autonomie corporelle à des femmes trans et des personnes transféminines et remise en question avec des projets de loi transphobes.
Oui. Puis, en fait, comment ça... Quand vous faites un appel de texte, comme vous avez dit, puis, en fait, comment est-ce que vous décortiquez tous ces textes que vous, vous recevez? Comme tu parles d'un sujet, justement, qui vous a interpellé, mm-hmm. mais ensuite, est-ce que le thème vient avant ou après, dans ce cas-ci, l'appel de texte?
Le thème est venu avant.
Le thème est venu avant, puis, tu sais, le premier, c'était vraiment... ça se voulait en général, le but, c'est comme... Puis on ne savait pas exactement ce qu'on s'en allait avec ça. Comme je disais, l'appel de texte a eu lieu quand même avant qu'on ait une idée de vraiment de quoi ça avait l'air. Mm. Fait que c'est vraiment les filles qui ont fait le tri là-dedans. On a reçu énormément de textes. On fait une sélection de 18 autrices, artistes transféminines de Montréal et d'ailleurs. Puis ça, c'est ce qui fait la particularité de Bad Zine aussi. C'est que ça s'ancre vraiment dans une logique diasporique où notre objectif, c'est vraiment de s'ancrer dans la culture, justement, international de la communauté transféminine. Tu sais, nous, moi, je suis une littéraire, je suis une libraire. Puis, tu sais, on a travaillé... Tu sais, avec Biden, en fait, est venu aussi Édition Agenda, qui est en train de devenir en ce moment Coopérative Agenda, qui va être une librairie transféministe ici à Montréal.
Oui, puis je pense que tu as annoncé ça aujourd'hui.
Oui, oui, c'est ça. J'ai juste fait un petit pause rapide aujourd'hui oui. là, pour dire que les médias sociaux allaient être gérés par d'autres mondes à partir de maintenant. Puis, c'est ça, donc, By Design, tu sais, c'était vraiment le but aussi, c'était de l'inscrire. En tout cas, moi, ça a été mon but, tu sais, parce que moi, je me suis en plus occupée, tu sais, de l'impression, la distribution, etc. J'étais moins impliquée dans le processus éditorial, tu sais, j'avais écrit dans le premier. Puis moi, ce que je voulais faire, c'était comme, OK, je vais créer un contexte culturel dans lequel ça va s'inscrire, puis que les gens vont comprendre c'est quoi ça, puis c'est quoi ce projet-là. Parce que, tu sais, nous, on est des lectrices de... Je sais pas, Hazel Jane Plante, Casey Plett, ben en fait, on a même une illustration du second qui est faite par Sybil Lamb,
oui.
qui est quand même une légende dans la littérature transfemme, puis dans une illustratrice aussi. Fait que, tu sais, nous, c'est toutes des choses qui sont importantes pour nous, qui sont des courants littéraires qui nous concernent, dont on est proche, puis on connaît une certaine communauté, en fait, d'écrivaines aussi qui s'inscrivent dans cette espèce de tendance-là de... moi, j'appelle ça le renouveau de l'écriture transféminine en Amérique du Nord, là, mais c'est vraiment sorti justement du transrealism là, qui est sorti de chez Topside Press autour des années 2010 à New York. Puis ça a vraiment, là, à partir de la publication de Nevada par Imogen Beeny en 2015, je pense, ça a vraiment parti. Là. C'est là qu'il a commencé à avoir plus de création. Puis on est comme, tu vois, 10 ans plus tard, puis on est rendu avec notre propre petite institution qui essaye de s'inscrire dans ce courant-là. Là.
Et puis, ça nous permet aussi de découvrir des œuvres, des biais ouais. qui sont peut-être pas rendus au stade de la publication d'un ouvrage, mais aussi dans d'autres médiums aussi, on a des dessins digitaux, on a des sculptures aussi dans nos pages. Et puis, tout ça, ça vient se rencontrer ensemble dans Bad Zine.
Puis, par rapport à la réception du public, est-ce que vous avez déjà eu des retours? Comment est-ce que vous pensez que ça s'inscrit en ce moment dans le paysage littéraire?
Bien, c'est sûr que le premier s'est vendu les 250 copies sont écoulées.
Nice.
Fait que là, on est rendu au deuxième. On en a fait imprimer 350, justement, pour essayer de les tirer un peu, puis diminuer notre prix à la copie, parce que
oui.
on appelle ça un zine. C'est très... parce qu'il y a Il y a un gros investissement au niveau de la pratique, de l'objet littéraire lui-même. Tu sais.
Mm-hmm.
Mais la réalité, c'est que c'est quand même imprimé chez Catasoro, parce qu'on voulait qu'il soit imprimé offset. En fait, moi, je trouvais ça très, très cher. Margot voulait que ce soit imprimé offset parce qu'elle avait choisi sa couleur. Elle voulait tout que ce soit en monochrome,
Pantone.
Mais les gens ne voient pas la radio.
Ouais.
Et c'est une couleur Pantone. La Pantone, ça s'imprime pas en numérique. Il faut l'imprimer à l'encre. Et donc, on a dû aller vers une impression offset qui nous a coûté une fortune.
Mais le résultat est
magnifique.
Voilà.
C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on écoute la personne, la créatrice derrière la zine quand on envoie le contrat chez l'imprimeur.
Oui, mais c'est ça, justement. July, toi, tu t'es plus occupée de l'aspect physique, de l'identité mm-hmm. visuelle. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, ce processus-là d'idéation?
Mais c'était vraiment un plaisir. Et puis... c'était un peu une variante intéressante de qu'est-ce que je fais dans la vie, parce que à temps plein, je suis designer urbaine. Et puis, Ben, moi, dans ma formation, on a quand même touché aussi à la photographie, au graphisme, à l'édition. Et puis, c'est là où ça m'a vraiment mordu ce goût de faire des livres-objets et puis de m'intéresser à la reliure, à l'imprimerie. Et puis, avec ça, c'était... déjà, avec le deuxième, on avait déjà un format de prédéfini. Alors, on pouvait plus mettre notre énergie sur les textes, sur l'édition. Mais on a quand même investi beaucoup d'énergie, Nana et moi, lors de l'élaboration du premier numéro, pour vraiment cerner, OK, on voulait que l'objet ressemble à quoi? Et puis, Bite Zine, c'est un jeu de mots, en sorte, oui, Bite Zine, Bit Zine, qui, c'est un peu risoire, mais Bite Zine aussi, comme dans Bite Size, comme très petit, c'est un format 4x6, et puis, on voulait que ça puisse rentrer dans même la plus petite sacoche.
Oui, on a confirmation visuelle que ça rentre dans la petite sacoche. Ben oui, justement, j'allais poser la question sur le titre, donc mais tu l'as expliqué, donc c'est ça, ça a le double sens de petit et de bit.
Ouais.
Et
c'est ça. Aussi de traps, parce que ça vient de traps, puis donc l'idée du piège qui mord, donc bite zine aussi, mais c'est aussi une façon de souligner le bilinguisme de l'objet aussi, d'une certaine manière, tu sais, de faire ce jeu de mots-là, puis de parce qu'on aime, veux pas, on est une communauté très bilingue, là, mine de rien, puis... mais tu sais, pour nous, dans le fond, c'est quasiment une façon d'intégrer du français dans la communauté, d'une certaine manière, de l'imposer un peu. Mais c'est ça, mais c'est super le fun, tu sais.
Mais plus dans le sens de peut-être faire circuler des discours plus anglophones du côté francophone.
Oui, ben d'une part, oui, c'est sûr que moi, je suis bien là-dedans en général. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis dans la production littéraire, culturelle, politique américaine beaucoup. Je suis très, très à l'affût de ce qui se fait là, notamment dans la production littéraire trans. Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins le cas au Québec. Il y a beaucoup moins d'offres, puis il y a beaucoup moins de courants, tu sais. Règle générale, par exemple, le transrealism, on n'a pas encore vu un équivalent québécois, là, tu sais.
Mais on l'espère.
Mais on l'espère, exact. T'sais.
Voilà, c'est dit.
Puis donc, tu sais, cet aspect-là, très honnête, très proche de la réalité, très peu pédagogique aussi. Parce que ça, c'est le truc qui est le fun avec cette littérature-là, c'est que la première fois que, comme femme trans, la première fois que tu lis Nevada, tu fais comme, waouh, on a le droit de dire ça. Tu sais, il y a comme quelque chose de, il y a pas de distance avec le sujet. T'as pas l'impression qu'on est en train de t'expliquer ta propre vie, tu sais. Comme on verrait, par exemple, dans des œuvres plus classiques ou des courants littéraires antérieurs qui étaient beaucoup autobiographiques, basés sur expliquer aux personnes cis qu'est-ce que c'est que nos vies. Puis toujours dans une idée de respectabilité. Là, on s'éloigne complètement de ça. T'sais. Dans le deuxième numéro de Biden, on a justement un texte de Sybil Lamb qui est un texte qu'elle avait publié sur son blog, je pense, en 2000, quelque chose comme
2010,
ça. 2010, oui. 2010? OK, pas si loin que ça, quand même.
Si loin.
Mais c'est parce que ça fait longtemps qu'elle est là, c'est bien, ça fait depuis 96. Et donc, elle avait publié ce texte-là, tu sais, puis c'est « How to not have a sex change ». Puis elle explique, en fait, c'est super drôle, c'est trash à mort, c'est vraiment comique. Puis elle parle justement d'orchiectomie faite à la... de façon... DIY, disons.
DIY, oui.
Puis c'est ça, une orchiectomie, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'ablation des testicules. Mm-hmm. Fait que là, elle raconte ces gens-là qui, dans les années 90, allaient dans des chambres d'hôtel pour subir une orchiectomie par un chirurgien amateur, des choses comme ça, tu sais. Puis c'est vraiment fucking drôle, là. Excuse-moi.
On peut s'en permettre un petit peu.
Je vais essayer de ne pas exagérer. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi de se parler. Puis je pense que c'est ça l'intérêt aussi d'intégrer l'anglais, c'est oui, d'une part, diffuser ces paroles-là dans un contexte francophone, mailler ces communautés-là aussi, mais d'autre part aussi, juste avoir cette conversation-là, comme en intégrant différentes langues, ça fait en sorte qu'on a un bassin beaucoup plus large, tu sais, puis on est capable d'échanger de façon beaucoup plus complexe, beaucoup plus pleine, puis de façon très honnête aussi, tu sais. Je sais pas, mais je trouve ça très drôle, le texte de Sybil Lamb, justement, sur les orchiectomies, tu sais, puis d'être capable d'être entre nous dans cette espèce d'humour-là de comme « ha, 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 nos corps déviants », puis tu sais, genre juste d'être comme…
C'est pas juste tragique, c'est pas…
Exactement, voilà. C'est qu'on sort de la tragédie, on sort de la victimisation aussi, etc. Mais on, puis on revient, on s'installe dans notre dignité, puis on revendique cette dignité-là aussi, tu sais, à travers l'écriture, puis à travers cette publication-là.
Oui, donc bien, si on veut le lire, c'est dans Bidezine, dont on vient de parler dans le premier segment. Donc, merci pour ça. Et on va aller à une courte interlude musicale avec le bouquet d'Oli Ferra. Et on vous revient pour parler encore plus de Zine. Restez des nôtres. On est de retour à Zine Tonic. On est en compagnie de Judith et Margot pour la publication Bite Zine. Avant la pause musicale, on parlait des deux premiers numéros et de la démarche, en fait, du choix, même de l'impression. Et donc, on va s'éloigner un petit peu de la matérialité pour parler plutôt de démarche et d'inspiration. Donc, vous deux, vous êtes aussi, j'imagine, littéraire à vos heures et artiste à votre compte. Et donc, comment est-ce que ça converge, en fait, votre implication dans Bidezine, dans votre propre démarche?
Bien, en fait, comment est-ce que Bidezine et Agenda se sont rencontrés initialement? tu sais, je travaillais moi-même sur un petit projet personnel de livre d'art.
Un petit projet de 4 pouces de haut, là.
Et puis, j'en parlais avec Judith. Puis Judith m'avait dit, ben tu sais, moi, je veux lancer à une maison d'édition, librairie, et puis on pourrait travailler ensemble. Et puis, je sais que tu travailles sur le zine pour Traps aussi. Et puis, tu sais, Judith, ça fait un bout que je la connais, puis je sais que c'est quelqu'un qui a une pulsion pour l'excellence. Alors, tout de suite, je me suis dit, OK, yes, let's go for it. Et puis, avec ça, on a pu publier justement mon projet Notes sur l'émergence, mais aussi Byte Zine sous la maison d'édition Agenda, qui est en train de. Est devenue aujourd'hui une coop.
Sur papier, ça fait un petit peu plus longtemps, oui. Mais j'ai annoncé aujourd'hui sur Internet. Oui.
Puis toi, Judith, justement, comment...
Comment ça s'intègre à l'intérieur de ma pratique en général? Oui, c'est ça qui est drôle, hein? C'est que moi, j'ai commencé à faire des zines vraiment pas... Bien, ça veut dire, j'ai pas commencé à faire des zines en 2022, là, mais j'ai lancé, disons, cette portion-là de mon travail en 2022. Avant ça, j'ai pas été zinster de façon comme soutenue. Tu sais, j'avais publié un projet avec l'Antécrise en 2015, j'ai traîné dans le milieu, mais sans forcément être super productif. Puis en 2022, dans le fond, quand on a fondé Traps, il y avait un petit scandale autour du nom qu'on avait choisi pour l'organisation. Bon, pour les gens qui ne savent pas, c'est une insulte qui était très présente sur Internet pour qualifier les femmes trans.
De piège.
Exactement. Oui, et donc, ça. J'ai publié mon premier claptrap pour répondre à cette critique-là, avec dissimulation et mensonge dans les bobettes des filles, pour parler justement de pourquoi nous, on utilisait ce mot-là, puis pourquoi c'était important de se le réapproprier. Puis je le disais gratuitement au départ, puis rapidement... J'ai commencé à en faire d'autres claptraps, j'ai fait d'autres zines, puis quand je me suis ramassé au Salon du livre anarchiste en 2023, j'ai juste pris une table, puis j'ai juste vendu pour le fonds d'aide mutuelle de Traps, puis je me suis rendu compte que ça marchait vraiment bien. J'avais aussi une autre zine d'une zinster de l'Ouest canadien, de Saskatchewan, puis à un moment donné, j'ai juste fait comme « Hey, écoute, il y a des gens qui veulent lire ces choses-là. Ça existe comme pas full, cette parole-là, en ce moment, dans cet espace-là, surtout en français. » Fait que je me suis dit, yeah, let's go, tu sais. Puis c'était comme ça, à un moment donné, que ça s'est comme maillé avec Byte Zine, avec Agenda, avec... Mais j'ai tendance à vouloir vraiment tisser mes trucs ensemble. C'est très rare que j'ai des projets très séparés. Là. Mm-hmm. Souvent, j'ai tendance à vouloir tout ramener ensemble. C'est comme là, en ce moment, c'est Coop Agenda, c'est dans un local. Mais là, je suis déjà en train de réfléchir à comment on va meubler le local à côté pour accueillir nos BNL qu'on vient de fonder aussi. En tout cas, tu comprends un peu la logique. Je suis très intricate dans ma façon de travailler.
Puis rentabiliser. Hein,
exact. Ouais, exact. Oui, puis c'est ça. Tu sais, Claptrap, au départ, c'était ça me fait rire parce que, tu vois... au Salon du livre anarchiste, il était imprimé sur du papier blanc, bien d'ordinaire. Puis après ça, je me suis rendu compte que je pouvais le vendre. Là, j'ai mis du papier texturé dessus, un petit peu beige. Ça a donné une qualité, un fini qui a donné de la valeur, apparemment.
Oui, 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 absolument. Puis pour Agenda Books, justement, ça va être quoi un peu les projets qui s'en viennent? Puis peut-être que tu en as parlé un peu, mais tu sais, de la mission pour toi, ça serait quoi de ce projet-là?
Ah non, c'est vaste. C'est vaste. Bien, c'est ça. C'est que là, Agenda. Dans le fond, c'est que moi, j'avais commencé le truc, c'était édition Agenda. Puis à la base, je voulais que ce soit une maison d'édition, je voulais juste vendre nos livres sur Internet. Puis après ça, éventuellement, j'ai fait comme, hey, ça serait nice de vendre d'autres trucs. Là, je voulais avoir un contexte culturel, etc. Fait que là, je suis rendu avec au-dessus de 250 titres sur le site web, tous écrits par des femmes trans ou des personnes transféminines. Puis le passage à la coopérative, c'est vraiment. D'un, c'est le passage à un lieu physique. Que j'avais pas jusqu'à présent. J'avais juste un présentoir dans la librairie, n'était-ce pas l'été, là, dans la petite Italie. Très nice librairie, si vous aimez les zines, d'ailleurs.
Oui, on les salue.
On les salue. On aime beaucoup. D'ailleurs, Mélanie et Julie, pardon. Mélanie et Julie qui m'avaient invité justement cette année au Salon du livre anarchiste, Salon du livre, pardon, de Montréal. Je mélange les salons du livre. Pas exactement la même vibe.
Non, c'est une différence.
Donc, c'est ça. Les Innes ont fait leur apparition cette année justement au Salon du livre grâce aux efforts de Jess de Coup de Griffe puis de Mélanie et Julie de chez Nathalie Spoletti. Enfin, peu importe.
Oui, mais on le rappelle justement.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que je les aime beaucoup puis ils m'ont beaucoup soutenue au départ. Puis ça, c'est ce qui fait aussi en sorte que j'ai été capable de passer justement à cette nouvelle étape-là, mais qu'on a été capable de passer à cette nouvelle étape-là parce que c'est rendu un projet collectif, tu sais. Puis là, on parle vraiment d'une librairie, mais là, c'est drôle parce qu'on a trouvé le local, il y avait tout le stock pour faire un café dedans. Fait que là, on est comme, ben, il va y avoir un café, une librairie, il y a un petit stage en arrière, donc on va pouvoir faire quelques événements, des conférences, des ateliers, des choses comme ça. Puis on veut aussi avoir un espace réservé pour des membres qui seraient des artistes, des productrices pour faire justement de l'impression,
donc,
des îles, de la
reliure. Donc, d'avoir un atelier, oui.
Exact. Mais pas que de l'impression, là, je sais qu'il y a des gens d'ambition, là, mais j'essaie de qu'on commence par ça parce que oui. Ça reste une librairie à la base. Mais fait que ça se veut, oui, un lieu de production. Puis, tu sais, c'est une façon aussi de soutenir la communauté transféminine en général parce que nous, on veut que les travailleuses puis les artistes, ce soient des membres de la communauté transfem. Mais... T'sais, notre collection de livres ne sera plus seulement limitée aux autrices transféminines. On veut vraiment faire une librairie LGBT plus généraliste, librairie féministe aussi. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'en faire une espèce de hub, t'sais, d'en faire un lieu social aussi. T'sais, le KGB est mort, le KGB est fermé.
Ouais, oui.
Je rip le KGB, ben on va faire autre chose.
Et puis, c'est un peu cette même réflexion qui nous a poussé quand on a commencé à s'impliquer ensemble dans TRAP. C'est qu'on constatait l'absence de tiers-lieux qui étaient expressément accueillants envers les personnes transféminines qui... existait à l'extérieur de la vie nocturne. Donc, avec une librairie et un café, je pense qu'on est pas mal spot on. C'est vraiment un bel espace. Et puis, j'ai hâte au lancement, à l'ouverture, parce que...
Super beau spot, d'ailleurs.
Ouais.
Oui, qui est situé à peu près vers... Est-ce que tu peux dire
des exactement
indices?
Ça se situe aussi au coin Saint-Denis et Saint-Zotique.
OK, nice.
Très haute, près de la station Beaubien. C'est l'ancien Cornélien qui se trouvait là. C'est un espace de coworking.
Parfait.
Ça va être mieux utilisé, à mon avis, mais enfin, ça, c'est mon opinion très personnelle.
Mais oui, mais il y aurait plus de choix, il y a plus d'offres. Puis... pour une communauté différente, puis qui en a besoin, justement, parce qu'on manque tellement de lieux tiers, là, justement, de lieux qu'on doit pas dépenser nécessairement. Là, j'imagine exact. Que ce serait plus comme, justement, comme tu parlais des événements où là, on peut vraiment socialiser, puis exact. Au-delà de tout ça, parce que oui, il y a encore ça. Là,
mon but, c'est vraiment de créer une espèce d'espace où les gens ne sentent pas cette pression-là, justement,
ouais,
d'acheter, ils se sentent assez bienvenus pour pas sentir cette pression-là, mais... Moi, je sais que les gens vont acheter pareil parce que ça va être tellement beau, puis tellement intéressant, puis tellement le fun. Mais,
bon, moi,
mais c'est... juste pour te dire, c'est moi, écoute, il y a une librairie communautaire trans à Montréal qui est super nice, c'est tenu par Kalev, qui ça s'appelle Dix Landing Library, ben, la bibliothèque Dix, en fait, en français. Puis ils tiennent que des livres, des zines, etc., qui sont écrits par des personnes trans en général. Puis moi, je tiens à leur faire un espace, justement, au sein de la librairie. Tu sais, juste, tu sais, comme pour emphaser la notion de comme t'as pas besoin d'acheter de quoi, je veux littéralement prêter des livres sur place. Tu sais. Parce que le but, c'est aussi que ça circule. Tu sais. Puis mon intérêt pour les zines brochées, pliées, il vient de là aussi. Cette nécessité-là que le matériel circule.
Oui, c'est ça, parce qu'un truc qui revient beaucoup quand on parle de zine, c'est son aspect politique ou social de transmettre des discours, mais au-delà des réseaux traditionnels.
Ouais.
Fait que vraiment, autant by zine qu'à Jeanne & Book, c'est vraiment mu par cette même idée-là.
Définitivement. Définitivement. Puis, tu sais, quand tu regardes... je trouve que... Ah, écoute, je vais faire un hot take.
OK.
Je pense que l'avenir est dans l'imprimé. Parce que je pense que la littérature de masse, les romans de masse, ces affaires-là, il va toujours en avoir, ils vont rester, mais je pense qu'il va y avoir il y a lieu en ce moment pour avoir une grosse réorientation du milieu de l'imprimé, je pense. C'est plus très viable comme industrie, notamment parce que les gens ne veulent pas payer pour des mots.
Oui.
Puis moi, ce que je me dis, c'est que les gens veulent peut-être payer pour des objets, des œuvres, des... sais, quelque chose qui a une valeur en soi. Puis autre chose que je trouve importante par rapport à l'imprimé, puis ça, c'est, ça revient justement à la notion de distribution puis de diffusion, vraiment, d'idées, c'est que quand on est en ce moment beaucoup sur Internet, les personnes qui écrivent sur Internet ont des médiums ou des obstacles ou des affaires de même, ils ne se font pas payer pour ce qu'ils font. Je trouve ça ridicule. On va le mettre sur papier, puis les gens vont payer pour. Ça, c'est un. Mais d'autre part, c'est aussi le fait que comme, quand on est dans ces algorithmes-là, on est, sur ces réseaux sociaux-là, on est à la merci des algorithmes dont on connaît absolument pas du tout la teneur, même si on a des petites idées quand même de comment ça fonctionne. Ce qui fait en sorte que le matériel littéraire, idéologique, politique, etc., auquel on est exposé est fortement influencé par ces algorithmes-là, alors que l'imprimé permet d'outrepasser ça. Tu sais, quand moi, je suis à Exposine avec Bytezine, puis avec les BD de Folivelli, qui a illustré notre couverture, les gens découvrent quelque chose auquel ils n'auraient jamais été exposés autrement, parce que, oui, moi, tu sais, pour moi, Folivelli, c'est une grande artiste transfemme, tu sais, puis oui, je la suis sur Instagram, puis je like toutes ses posts, etc., je suis grande fan. Mais la personne qui passe au Salon du livre, la personne qui passe à Exposine, n'en a aucune espèce d'idée, puis d'avoir cette présence-là, puis de passer l'objet de main à main, ça permet de créer, de briser, en fait, ces espaces-là qui sont créés entre nous, en fait, par les algorithmes, finalement.
Oui, puis je pense que c'est un mot qui termine très bien ce premier segment, parce qu'il faut absolument aller à la pause publicitaire. Mais non, je voulais pas te couper, parce que c'était absolument pertinent et très vrai. Mais on pourra en parler davantage dans la deuxième partie, donc restez des nôtres, et on va à la pause publicitaire.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. Je vous invite chaleureusement à écouter Fleur Bleue, votre rendez-vous musical québécois des années 70 à aujourd'hui, tous les dimanches soirs, 20h à CIBL.
Eh oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à écouter mon émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
CIBL 101.5, Montréal.
5 secondes. Bonjour! Il ne restait pas 5 secondes, il ne restait aucune seconde, parce qu'on est de retour à Zen Tonic. C'est les joies du direct. Et donc, on est avec Judith et Margot de la revue, le périodique. Comment est-ce que vous...
La revue, Zen, magazine.
Un magazine.
C'est un Zen.
OK, parfait. On gardera...
Un zine périodique, tiens.
OK, oui, c'est bon ça. C'est bon, ça, j'aime ça. Un zine périodique. Et donc, comme à chaque semaine, je demande à mes invités d'apporter des coups de cœur. Et donc, je vous laisse commencer avec le premier que vous avez apporté.
Alors, moi, j'en ai apporté... j'en ai seulement apporté un parce que les deux autres sont assez rares en format imprimé, mais sont heureusement disponibles en ligne, soit Fucking Trans Woman de Mira Bellwether et Gender Trash de Mira Saleros et Zantra Philippa McKay. Celui que j'ai apporté en personne à ses effets secondaires de Tamara Martel. Mais parlons de Fucking Transwoman, c'est...
parlons d'elle.
Parlons d'elle. Commençons par Mira celui-là. Mira
Bellwether, ouais, décédée en 2022.
Qui est décédée récemment. Et puis qui a fait tout un travail à travers plusieurs rééditions de, en sorte de créer un guide sur les pratiques sexuelles.
Le muffing.
Oui, le muffing.
un zine de 80 pages sur le muffing.
Mais pas seulement ça.
Google it.
Oui. ouais, des pratiques sexuelles destinées au corps des femmes trans et comment aborder les femmes trans de manière respectueuse dans les relations. Et c'est très... Le travail graphique est très intéressant aussi. Il y a beaucoup de cut-out, d'illustrations, de photographies, de diagrammes qu'elle a produits elle-même. Et puis, c'est devenu un peu iconique dans nos communautés.
Oui, puis tu sais, honnêtement, le Fucking Transwoman, c'est sûr, c'est Mira Bellwether, c'est une... Elle était très active dans la communauté en général. Elle se prenait... Genre, tu sais, les femmes trans, t'en as tout le temps une ou deux dans ton entourage qui comme va voyager deux, trois provinces pour aller aider une fille à aller à un rendez-vous médical, là. Mm-hmm. Ben, c'était elle. Puis elle servait de son zine essentiellement pour financer ses activités d'entraide. Puis c'est quand je dis comme à traverser des state lines là, pour aller aider des filles, parce qu'elle vient des États-Unis, évidemment.
Oui.
Ouais. Deuxième zine dont je voulais parler, encore dans l'espace numérique, donc Gender Trash, c'était un zine qui a sorti en quatre numéros dans les années 90. Et puis. Donc, par Mira Saleros et Zantra Philippa McKay. Et puis, qui avait un peu une vocation qui n'était pas si différente de celle de Bite Zine. Donc, qui mettait de l'avant de la poésie, des récits, mais qui avait en plus de ça plus une vocation de sensibilisation sur les réalités transféminines. C'est disponible en ligne et puis ça se lit très facilement. Et puis...
Xantra Philippa McKay qui est décédée aussi. Ouais. C'est un mot qui revient souvent quand on parle de nos communautés. Mais c'est drôle, en fait, parce que tu parles de gender trash, puis ça me fait vraiment rire, parce que je vois de l'autre côté de la rue, on voit le Cléopâtre, oui. qui est un lieu iconique de notre communauté, évidemment, et que, en fait, c'est drôle, dans le dernier numéro de gender trash, Mira Soleros fait une entrevue avec Diane Aubert au Café Cléopâtre, et Diane Aubert, à ce moment-là, n'a pas encore fondé ASTEC, qui est l'Action santé transsexuelle transgenre, travesti transsexuel du Québec. Puis, tu sais, c'est devenu vraiment une institution absolument essentielle à notre communauté à Montréal, là, genre dans le sens qu'on serait il y a tellement, tu sais, pour les femmes racisées, les femmes migrantes, les travailleurs du sexe, etc. Puis Diane Aubert, justement, c'est une de ces fondatrices-là avec Viviane Namasté. Puis ça me fait juste rire d'être en face du Café Cléopâtre à parler de Mira Soleros dans les années 90 à ce sujet-là.
Mais après, c'est drôle. Des fois, je sors de travailler parce que je travaille au deuxième étage. Puis mes amis travaillent au Cléopâtre aussi. Fait que là, j'étais comme, on travaille tous dans le même coin. Finalement.
Dans la même rue. Ah, oui. C'est drôle.
Et puis, je termine avec Effet secondaire de Tamara Martel. C'est la seule que j'ai apportée physiquement. Mais je serais contente de pouvoir le tenir entre mes mains parce que c'est un très bel objet. Et puis, j'ai travaillé avec Tamara dans le passé et puis son travail dans ce zine, c'était de créer une typo modulable donc qui pouvait s'étirer et puis changer de caractère. tout en traitant à travers un abécédaire des effets secondaires de la contraception hormonale. Donc, comment ce travail-là vit de concert avec la typo et le travail graphique. Et puis tout ça, c'est imprimé RISO sur du papier craft, je crois. C'est...
Mais c'est le rose flash aussi qui
est... Le rose flash, ça donne RISO. Tu sais que tu ne peux pas imprimer ça ailleurs quand tu as une imprimante RISO. Oui.
Ouais. Mais je le vois d'ici, le papier, il est très...
très poreux, très texturé. Je pense pas que c'est du craft, honnêtement.
C'est du papier journal, ouais.
Non, mais c'est tellement épais. Excuse-moi, cartonné, mais en tout cas, c'est un beau papier. C'est un très beau papier, j'avoue que...
Ça fait l'artisanal.
Ça fait l'artisanal. Mais tu sais, quand tu vois le grain dans le papier, honnêtement, moi, ça me fait quelque chose.
Oui.
Mais il y a quand même cette dualité de, à la fois de quelque chose qui est relié avec un élastique, mais quelque chose qui est très travaillé au niveau graphique et au niveau de recherche du contenu. Alors moi, je trouvais ça très, très inspirant.
Nice. Puis toi, Judith, c'est quoi tes coups de cœur?
C'est drôle parce que moi aussi, il y en a un que je n'ai pas amené parce que je pense que j'ai vendu ma copie personnelle. fait que je pense, puis out of press, fait que je pense que je suis faite un peu, mais je l'aime vraiment beaucoup, ça me dérange. C'est Transfeminist Self-Help Guide de Kat Haynes, qu'elle a publié en 2022, qui a été monumental, en fait, pour moi, entre autres parce que ça porte d'autogynécologie transféminine et transféministe. Et donc, c'est toute une réflexion, en fait, sur... la violence obstétrique, gynécologique, slash patriarcale à travers les soins transaffirmatifs, notamment la chirurgie, la vaginoplastie. Mm-hmm. Puis moi, je l'avais gardé de côté pour lire pendant ma convalescence, après avoir reçu une vaginoplastie.
Oui.
Puis ça a vraiment... en fait, c'est ce qui m'a amené à rédiger le texte que j'ai écrit dans le premier numéro de Bytezine, justement sur... les violences patriarcales qui sont liées à ces procédures-là, parce que malgré qu'elles soient désirées, on les subit aussi beaucoup.
Oui, oui, oui.
Parce que les médecins, on s'entend, hein?
Oh, oui. Les médecins, trois petits points.
C'est ça. C'est mon premier. C'est honnêtement, il n'y a rien de super particulier sur le plan formel, pour être honnête, mais il est très beau, très... professionnel.
Mais au niveau du contenu...
Mais le contenu, c'est fou.
On n'est pas seulement dans le contenu guide informatif. Il y a vraiment un travail aussi du dialogue et puis une expression du care à travers ce dialogue.
Puis dans toute la première partie, dans toute l'introduction, en fait, c'est une discussion... En fait, c'est un verbatim de elle et sa blonde, qui est cis. Et là, c'est juste elle fume un bat en même temps que, genre, Kat Haynes prend un spéculum pour se regarder avec un miroir. Puis là, c'est sa blonde qui parle avec elle. C'est tellement drôle, là. Moi, je varge dans le micro en ce moment. Excusez-moi. Mais on comprend que je suis quelqu'un qui gesticule beaucoup. oui, donc c'est ça. Fait que vraiment une super belle réflexion. Puis moi, ça m'a lancé dans plein de discussions, dans plein de réflexions parce que ça ouvre une porte d'honnêteté puis de discussion qui, à mon sens, est profondément féministe. Mais tu sais, au sens de... C'est une réflexion féministe depuis un point de vue transféminin. C'est pas juste on essaye de rentrer les femmes trans dans le féminisme. Tu sais, veux dire?
Oui, oui.
Ça, c'est là qu'on est rendu nous autres. C'est commencer à le penser depuis notre point de vue puis arrêter de demander d'être incluse. Tu sais, puis ce livre, ce zine-là, pour moi, c'était vraiment ça. Ça avait cette valeur-là puis j'étais vraiment charmée.
Oui, puis c'est ça l'importance de l'intersectionnalité parce que c'est pas un point de vue qui peut être reproduit par quelqu'un de cis, justement. Tu sais, c'est pas...
Exact.
Il faut, là. Pour les bons puis les mauvais côtés, des fois, c'est ce qu'il faut...
Oui, puis tu sais, par ailleurs, je veux dire, je verrais bien une discussion sur, je sais pas, le racisme être entamé par un homme blanc, par exemple. Ça serait un petit peu inapproprié.
Mais c'est pas que ça arrive pas.
C'est pas que ça arrive pas. Non, non, non. Fait que oui, ça, c'est pour Kat Haynes. Oui. J'ai une autre artiste que j'aime beaucoup, que j'invite les gens à la suivre sur Instagram, parce qu'elle fait pas beaucoup, elle a pas une grosse production de zine, mais elle poste à tous les jours.
Mm, nice.
Puis elle a ses petits personnages, elle s'appelle Ur. Et là, ses petits personnages, elle a fait quelques zines dans le passé. Puis c'est vraiment dessiné toujours un peu de la même manière. C'est-à-dire, on a une ligne quand même très...
On peut dire simple, mais pas nécessairement simple.
Exactement. Mais en fait, on a une ligne assez fluide, mais c'est qu'elle est toujours faite, c'est toujours un dessin digital.
Oui, et avec d'un un trait seul qui représente un pixel.
Exactement, ouais. Toujours un seul pixel.
Ah, oh, nice, OK.
Et c'est ça qu'elle fait depuis des années. Et puis, l'an dernier, je crois, ou l'année d'avant, je ne me souviens plus, elle a publié un zine qui est un rouleau imprimé.
C'est vraiment dommage qu'on ait été à la radio parce que on voit Judith en train de dérouler ce rouleau. On dirait quasiment un rouleau de la Torah. Mais ouais. c'est du papier reçu.
C'est du papier thermal, c'est ça, d'imprimante à reçu. Puis c'est vraiment fascinant. C'est ça que j'aime bien avec ce zine-là, spécifiquement d'elle, parce que oui, j'aime son trait, j'aime son dessin, mais jamais ça m'a semblé aussi approprié que sur ce médium-là.
Ouais.
C'est comme, on dirait que son dessin a été fait pour ça. Puis je trouve ça fantastique, c'est vraiment le fun. C'est l'enfer à lire, parce qu'il faut le rouler après.
Oui,
puis
oui.
Là, on a toujours la chance de le briser à chaque fois, parce que c'est du papier d'imprimante à reçu. Hein. Fait que c'est pas particulièrement solide.
J'ai déjà fait un zine sur du papier d'imprimante à reçu.
Voilà. Puis, donc, je le trouvais très beau, très bien fait. Il est très long, puis je l'adore. Puis c'est ça, ces petits personnages-là qui sont toujours tout nus, en train de faire des... Ils sont toujours très incompétents là, avec leur corps. Là, puis, c'est toujours à la fois tragique, triste et très drôle.
Oui, puis c'est, des fois, on a besoin de ça.
Oui, des fois, on a besoin de ça.
Mais pour reconnaître notre propre corps tragique, là, moi, en tout cas, ça me fait du bien des fois. Ça sert à ça, la représentation. C'est pas juste le corps que je veux ou que je devrais avoir. C'est comme, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça que c'est, là. Donc, oui, très bon choix. C'est tous des très bons choix, là, mais...
Ah non, mais attends, c'est parce que j'en ai plein d'autres à la table, là. Mais j'imagine que j'ai pas le temps d'en parler, hein.
Ah, on a encore un bon 10 minutes, là.
Ah, OK.
Quand même, là, oui, oui. C'est pour ça que le segment, c'est un bon 25 minutes
parce
sur les coups de cœur. Parce que
je tiens à parler, parce qu'on a parlé de gender trash, puis gender trash, tu sais, ça vient de femmes trans, bien sûr, mais c'est aussi, ça vient du milieu des travailleuses du sexe. Mm. Puis ça, c'est pas négligeable, dans le sens qu'au Québec... Les travailleuses du sexe ont historiquement eu une importance dans la scène du zine.
Oui.
Et là, je suis en train de sortir... c'est pas un zine en ce moment, évidemment. C'est une anthologie. Mais Mélodie de Sylvie Rancourt, ben là, c'est la version anglaise qui a été republiée par Drowning Quarterly. Parce que la version française, il y avait tout en fait les dessins dedans, puis c'était horrible.
Ah oui?
Oh. Oui, parce qu'ils trouvaient pas ça professionnel. Parce que, justement, Sylvie Rancourt, son dessin, il est très naïf.
Oui.
Ce qui, à mon sens, fait la beauté du dessin. T'sais, notamment, il y a des aplats noirs d'encre absolument magnifiques, je trouve.
Mais oui, mais oui.
Puis donc, c'est ça. C'est pour les gens qui ne savent pas, Sylvie Rancourt, elle était danseuse nue. Puis ce qu'elle faisait, en fait, c'est qu'elle écrivait ses petites BD, puis elle les faisait imprimer et les vendait à ses clients dans les bars. Parce que, bon, à l'époque, puis encore aujourd'hui beaucoup, mais à l'époque, je pense que c'était vraiment plus le cas, mais il y avait les danseuses nues tournaient beaucoup entre les différentes villes. T'sais, c'était très rare que tu étais installée en quelque part. Donc, quand elle était en tournée, mais à ce moment-là, elle amenait avec elle ses BD, puis elle les vendait à ses clients. Je trouve ça très cute. Puis je trouve que ça... Tu sais, c'est une œuvre importante dans la scène d'usine, pour vrai, Mélodie, parce que on s'entend, c'est les années 90... c'est le début là, du zine au Québec, là, au sens où on le connaît aujourd'hui, mettons. Là. On peut débattre longtemps de qu'est-ce que c'est qu'un zine. Là.
Oui, c'est à ça que ça sert, cette émission.
Exact!
Donc,
mais c'est ça, donc, Mélodie... moi, je trouve qu'on ne peut pas parler de zine au Québec et de l'histoire du zine sans parler de Mélodie. Puis, je sais pas, le lien avec Gender Trash, pour moi, il est évident parce que... Il y a cette scène-là qui est constamment invisibilisée, des travailleuses du sexe qui sont c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une invisibilité, en fait, il y a une survisibilité et une invisibilité en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une survisibilité dans l'espace public, du corps, etc. Donc, il y a un danger qui vient avec ça. Puis, il y a une invisibilisation, justement, de la participation à la société en général, puis de la production culturelle. le nombre de choses en ce moment qui apparaissent dans la culture populaire, dans les vidéoclips, dans la musique, etc., qui viennent directement de la culture des travailleuses du sexe.
Ah oui, oui, oui.
De façon très évidente en ce moment, mais ça a toujours été le cas. Et puis, pour moi, c'est important de souligner ça. Puis surtout, étant justement dans la communauté trans, on s'entend qu'on a une bonne proximité avec le milieu du travail du sexe, c'est comme rien. Là. Donc, moi, je suis attente au travail du sexe qui nous écoute.
On le rappelle et on le redit parce qu'on y croit, mais justement, mais c'est drôle parce que Mélodie, hier, j'étais à Exposen, puis c'est un des livres que j'ai sorti comme le coup de cœur de l'équipe parce que justement, il est tellement autant important que magnifique aussi, les dessins. C'est ce genre de choses-là. C'est pour ça que les zines, ça peut être important pour participer au discours de justement, ça prend le point de vue de ces femmes travaillantes-là ou de ces personnes qui travaillent dans l'ombre, là, en grand guillemets, mais pour que ce soit moins dans l'ombre, mais que ce soit juste, hey, ça fait partie de la vie aussi, puis on existe, puis on est là.
Puis même aussi, il faut rappeler que Mélodie, il y a une innovation aussi pour la BD là-dedans, tu sais, c'est une BD de la banalité qui c'est pas quelque chose qui est super fréquent à l'époque puis qui est devenu aujourd'hui un genre en soi là, tu sais, vraiment de puis de suivre quelqu'un dans la banalité de son quotidien, dans les petites violences, les petites agressions, les petits plaisirs aussi, tu sais, du quotidien. Puis je trouve que c'est un beau témoignage, puis ça en fait aussi une archive quand même importante d'une époque, tu sais, puis d'un métier.
Puis d'un Montréal aussi, ou d'un Québec que justement qui passe pas nécessairement par les institutions. Puis tant mieux qu'on ait ces preuves-là
oui, institution. Vraiment, vraiment. Ah, c'est drôle, ça me fait penser à Viviane Namasté qui a tellement travaillé fort pour ça. Mais enfin.
Oui. Et on a un petit 4 minutes pour un dernier coup de cœur, si jamais tu voulais en plugger un dernier.
Mais là, je vais juste plugger mon ami Zabo. Pour Zine de Zine, tu sais, Isabeau, il est venu ici, il m'a parlé de moi, il n'arrête pas de me vanter. Puis là, je suis comme, mon Dieu, mais Zine de Zine, c'est vraiment cool. Ça, c'est en train de ben là, c'est le premier que j'ai amené, mais il y en a trois déjà de sortie à ce moment-ci.
Oui.
J'invite les gens à s'abonner, c'est possible de le faire d'ailleurs. Puis ça, c'est un recensement, dans le fond, de la production Zine à Montréal. C'est fait par Jess de Coup de Griffe, Isabeau. Qui d'autre là-dedans? Ah, la dernière! Oui, c'est vrai, il y a Bess qui fait des mots croisés.
Oui, c'est vrai.
Puis le dernier était illustré par... Oh mon Dieu, j'ai oublié son nom.
Ah, attends, c'est pas Simon Bossé, non. Le dernier, celui qui vient de sortir.
Je suis terrible sur les noms. Enfin, peu importe.
Je le visualise, mais non, moi aussi, ça me revient pas. Puis en plus, c'est comme un zine très méta.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'ils ont vraiment du fun à explorer le médium. Puis moi, j'ai beaucoup de... J'aime vraiment, vraiment ce projet-là. Ça donne un drôle dynamisme aussi à la scène. Puis ça fait connaître les gens qui se connaissent pas forcément. Parce que c'est... Je dis la scène, mais c'est plusieurs scènes, le zine, à Montréal, on s'entend. Oui. C'est très rare, c'est pas très rare, mais à part qu'à Exposine, puis encore là, à Exposine, ça commence à devenir problématique pour le croisement de ces scènes-là, parce que justement, il y a de moins en moins de zines brochées. Puis donc, tout le caractère politique, plus punk, etc., est en train de se faire un peu tasser de là, tu sais. Fait que, éventuellement, bon, moi, je milite pour un off.
Oui, mais c'est ça, il y a
exposé, ne serait-ce que pour comme, enlever du monde un peu de cette place-là, parce que, mon Dieu, que c'est pas vivable. Enfin.
non, mais je travaille là. J'en ai passé des journées entières derrière un comptoir. À...
Mais oui, non, mais c'est ça. Mais quand je parle d'un off, c'est évidemment pas contre Exposine. Mon point, c'est juste que je pense qu'il y aurait des...
Il y a de la place pour ça.
Il y a de la place. C'est tellement vigoureux comme milieu, puis il y a tellement de propositions différentes, puis des approches différentes. Surtout à notre époque, je pense, où comme les gens ont investi de façon très, 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 très rigoureuse, très intense, le caractère formel d'usine. Tu sais, justement, j'en ai un autre ici, là, qui est Guéricola, Alice Guéricola, qui est de Québec. Ben là, bon, il est tout démonté, là, mais enfin, c'est juste c'est une réflexion, ça s'appelle « Mythologie à l'épicerie », c'est une réflexion sur les épiceries à partir de Roland Barthes, mais ce qui est drôle, c'est que c'est entièrement fait sur du papier glacé qui reprend, en fait, des
codes.
Ben, des codes, mais aussi carrément des images de circulaires d'épicerie. Puis tout ça emballé dans une couverture qui est en fait en caisse de bière belle gueule.
Oui.
Ça que, tu sais, c'est, quand je dis qu'il y a une exploration formelle, c'est pas forcément toujours chic, mais il y a toujours comme un plaisir à jouer avec l'objet.
Oui.
Puis c'est, je sais pas, moi, je trippe sur cette zine-là juste par sa forme, je le trouve très drôle.
Mais moi aussi, c'est vraiment ce qui m'accroche dans le zine, c'est de voir comment l'objet aussi peut communiquer un message. Puis donc, est-ce que ça faisait le tour de vos inspirations, en fait, en tant qu'artiste?
Ben, c'est même pas tant que c'est mes inspirations, hein, parce que comme si je peux parler d'inspiration... L'artiste qui m'a le plus inspiré... Mais là, je vais être quétaine, là. L'artiste qui m'a le plus inspiré, qui a le plus d'impact dans ma vie, dans ma vie, puis je sais qu'elle va écouter cette émission-là, c'est Rachel Sanson, qui a publié récemment Blaguette avec Jimmy Beaulieu, je me souviens plus c'est quoi le nom de sa maison d'édition.
Colosse,
voilà. Qui est aussi la personne qui illustre mes Claptrap, donc mon ex... Rachel Sanson, une grande artiste, une cinéaste d'animation et une illustratrice hors pair.
Oui.
Grande influence dans ma vie, pour être honnête.
Oui, ce ne serait pas une relation queer s'il n'y avait pas l'aftermath de travailler sur un zine.
Oui, exact. puis par ailleurs, je veux dire, comment dire, elle m'a tellement donné, genre, en termes de sensibilité, de regard. C'est très... Elle a un regard tellement particulier sur la création, l'art, etc. Une personne à rencontrer puis à d'ailleurs, là, j'y souhaite bonne chance avec la fin de son film. Là, il est en train de finir son film. C'est un projet interminable.
On la salue.
On la salue.
Bien, excellent. Bien, merci beaucoup. Merci, Margot. Merci, Judith. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait aujourd'hui.
Merci de nous recevoir.
Oui, ça fait plaisir. Moi, c'est vraiment pour... L'émission, c'est pour ce genre de moment-là que je la fais, donc ça me fait super plaisir. Merci à CIBL de nous accueillir dans leur plage horaire. Merci, Wilfred Enzoa. Enzoa, merci, pour la mise en onde et merci à vous de nous écouter chaque semaine et pour les retours, les petits commentaires, ça fait toujours chaud au cœur. Et donc, je vous laisse avec la chanson « Ménage du printemps » de Bon Enfant et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste.
Seulement dans ma
Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois une zineur zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
Salut, mon nom est Camille et je suis une conseillère dynamique et polyvalente.
Si Camille n'a pas mentionné qu'elle est dyslexique, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, je m'appelle Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5, embarquez avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes. Courant d'air, c'est l'émission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL 40 años.